Chapitre 15. La septième année, année du relâche. Toute dette remise. Au bout de 7 ans, tu feras relâche. Et c'est ici la manière du relâche. Tout créancier relâchera sa main du prêt qu'il aura fait à son prochain. Il ne l'exigera pas de son prochain ou de son frère, car on aura proclamé le relâche de l'Éternel. Tu l'exigeras de l'étranger, mais ta main relâchera ce que ton frère aura de ce qui t'appartient, sauf quand il n'y aura point de pauvre au milieu de toi. Car l'Éternel te bénira abondamment dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, pourvu seulement que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd'hui. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il t'a dit, et tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, mais toi, tu n'emprunteras pas sur gage, et tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront pas sur toi. Versets 1 à 6. Par les institutions variées du rituel lévitique, le Dieu d'Israël cherchait à attirer continuellement à lui le cœur de son peuple. Il y avait l'agneau offert soir et matin, chaque jour. Il y avait le sabbat, chaque semaine. La nouvelle lune, chaque mois. Il y avait la Pâque chaque année, des dîmes particulières tous les 3 ans, l'année de relâche tous les 7 ans, et enfin le jubilé tous les 50 ans. Tout cela est plein de signification pour nous. L'agneau du matin et du soir représentait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sabbat est le type du repos dans lequel Dieu veut introduire son peuple. La nouvelle lune préfigure le temps où Israël restauré reflétera les rayons du soleil de justice sur les nations. La Pâque était le mémorial de la délivrance d'Israël de la servitude d'Égypte. Les dîmes de la 3e année, rappelant la possession du pays par l'Éternel, montraient comment son revenu devait être employé à subvenir aux besoins de ses ouvriers et de ses pauvres. L'année sabbatique était l'annonce d'un temps heureux où toutes les dettes seraient éteintes et où l'on serait libéré des emprunts et débarrassé de tout fardeau. Enfin, le jubilé était le type magnifique du temps du rétablissement de toutes choses, où le captif sera rendu libre, où l'exilé rentrera dans son foyer, et où le pays d'Israël et la terre entière se réjouiront sous le gouvernement bienfaisant du fils de David. De toutes ces institutions ressortent 2 traits principaux et caractéristiques. La gloire de Dieu et la bénédiction de l'homme. Ces 2 choses sont unies ensemble par un lien divin et éternel. Dieu a tout ordonné de manière à ce que sa gloire et la bénédiction de sa créature soient liées ensemble, indissolublement. C'est précisément pour cela que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 2. Lorsque cette gloire brillera dans toute sa splendeur, les bénédictions, le repos et la félicité atteindront leur plein et éternel développement. Nous voyons une belle figure de cet heureux moment dans la 7e année. C'était le relâche de l'Éternel, dont les bienfaits étaient sentis par tous les débiteurs pauvres, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. L'Éternel accordait à son peuple le privilège d'avoir communion avec lui en remettant toute dette. Il voulait enseigner la profonde bénédiction qu'il y a à pardonner tout, sans réserve. C'est ce en quoi lui-même prend plaisir. Donner libéralement. Mais hélas, le cœur humain n'est pas à la hauteur de ces choses. Il n'est pas disposé à marcher dans ce chemin céleste. Son misérable égoïsme tend à l'empêcher de saisir et de pratiquer le principe divin de la grâce. La chair n'est pas propre à être le canal de cette grâce royale qui brille avec tant de splendeur dans toutes les voies de Dieu. D'où les exhortations renfermées dans les versets suivants. Quand il y aura au milieu de toi un pauvre, quelqu'un de tes frères, dans l'une de tes portes, dans ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras libéralement ta main et tu lui prêteras sur gage, assez pour le besoin dans lequel il se trouve. Prends garde à toi, de peur qu'il n'y ait dans ton cœur quelque pensée de Bélial et que tu ne dises « La 7e année approche, l'année de relâche », et que ton œil ne soit méchant contre ton frère pauvre et que tu ne lui donnes pas, et qu'il ne crie contre toi l'Éternel, et qu'il n'y ait du péché en toi. tu lui donneras libéralement, et ton cœur ne sera pas triste quand tu lui donneras, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ton œuvre et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car le pauvre ne manquera pas au milieu du pays. C'est pourquoi je te commande, disant, tu ouvriras libéralement ta main à ton frère, à ton affligé et à ton pauvre dans ton pays. Versets 7 à 11. Les sources profondes de l'égoïsme de nos pauvres cœurs sont ici mises à découvert et jugées. Il n'y a rien de tel que la grâce pour manifester les racines cachées du mal dans la nature humaine. L'homme doit être renouvelé dans les profondeurs les plus intimes de son être moral avant de pouvoir devenir le vase de l'amour divin. Et même, ceux qui sont ainsi renouvelés par la grâce ont à veiller continuellement contre les diverses formes d'égoïsme dont la nature déchue se revêt. La grâce seule peut maintenir notre cœur ouvert à tous les besoins qui nous entourent. Il est nécessaire que nous demeurions bien près des fontaines de l'amour céleste pour devenir des canaux de bénédiction au milieu de la scène de misère et de désolation dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Combien sont belles ces paroles « Tu ouvriras libéralement ta main ». Elles respirent l'air même du ciel. Un cœur ouvert et une main généreuse sont de Dieu. Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens 9, verset 7. Dieu donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches. Jacques 1, verset 5. Et il nous demande d'être ses imitateurs. Nous ne sommes pas seulement sauvés par grâce, mais nous demeurons dans la grâce, et nous sommes appelés à être la manifestation vivante de cette grâce, non seulement pour nos frères, mais pour toute la famille humaine. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Galates 6, verset 10. Lecteur chrétien, appliquons-nous diligemment à retenir dans nos cœurs ces enseignements divins. La misère humaine, les douleurs, les nécessités se présentent à nous sous mille formes diverses. Partout nous voyons des cœurs brisés, des esprits abattus, des foyers vides. Chaque jour, dans nos allées et venues, nous rencontrons la veuve, l'orphelin et l'étranger. Comment nous comportons-nous à l'égard de ceux qui souffrent? Nos cœurs restent-ils froids et insensibles envers eux? Leur fermons-nous nos mains? Ou bien cherchons-nous à agir dans l'esprit de miséricorde de l'Éternel qui donnait l'année de relâche? Nous sommes appelés à refléter la nature et le caractère de Dieu, à être directement les canaux de communication entre le cœur plein d'amour de notre Père et tous les besoins de l'homme. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Ce serait un triste démenti donné au principe de ce christianisme glorieux que nous professons. C'est notre grand privilège de répandre autour de nous la lumière du ciel auquel nous appartenons. Où que nous soyons, dans le cercle de la famille, au champ, au marché, à l'usine ou au bureau, partout ceux qui sont en contact avec nous devraient voir la grâce de Jésus briller dans nos actes, nos paroles, nos regards même. En est-il ainsi de nous? Vivons-nous assez près de la source de cet amour divin pour que le parfum en soit répandu tout autour de nous? Ou bien manifestons-nous l'égoïsme de notre nature, le triste caractère de notre humanité déchue et corrompue? Quel objet difforme qu'un chrétien égoïste? Rien ne fournit un prétexte plus plausible aux incrédules que la vie inconséquente des chrétiens. Nous sommes responsables de faire luire notre lumière devant les hommes, en sorte qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Notre vie de chaque jour devrait être comme un exposé et un exemple des principes célestes que la parole de Dieu nous enseigne. Le serviteur hébreu. Si ton frère, un hébreu, homme ou femme, t'a été vendu, il te servira 6 ans. Et la 7e année, tu le renverras libre de chez toi, et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui donneras libéralement de ton menu bétail et de ton air, et de ta cuve, tu lui donneras de ce en quoi l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Versets 12 à 14. Ici, de nouveau, apparaît la grâce de notre Dieu. Le serviteur libéré après ses 6 ans de service ne doit pas s'en aller à vide. La liberté et la pauvreté ne seraient pas en harmonie morale. Le frère devait être renvoyé libre et comblé, doté non seulement de sa liberté, mais d'une fortune à lui. Cette instruction porte le cachet même du ciel. Elle exhale le parfum du paradis de Dieu. N'est-ce pas ainsi que Dieu a agi envers nous? Non seulement il nous a donné la vie et la liberté, mais il pourvoit à tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour le temps présent et pour l'éternité. Il nous a ouvert les trésors inépuisables du ciel. Il a donné son Fils bien-aimé pour nous, afin de nous sauver, et il nous l'a donné comme trésor pour nous rendre heureux. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie présente et pour la vie à venir. On voit l'expression même du cœur de Dieu dans la manière dont il voulait que le serviteur hébreu soit traité. Tu lui donneras libéralement, non pas par obligation ni chichement, mais d'une manière digne de Dieu. Par ses actes, son peuple doit être le reflet de lui-même. Nous sommes appelés à la haute dignité d'être ses représentants moraux. Il nous appelle à agir pour lui et à lui être semblable dans un monde qui a crucifié son Fils. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te commande ces choses aujourd'hui. Verset 15. Le souvenir de la grâce de l'Éternel qui les avait rachetés du pays d'Égypte devait être le mobile permanent de leur manière d'agir envers leurs frères pauvres. C'est un principe infaillible. C'est dans la mesure où nous garderons devant nos cœurs la merveilleuse grâce de Dieu déployée envers nous, lorsqu'il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ, que nous serons capables d'exercer une réelle bonté envers nos frères et envers ceux de dehors. De simples sentiments de compassion provenant de nos propres cœurs, ou éveillés par les chagrins, la détresse et les besoins de notre prochain, s'évanouiront bientôt. C'est dans le Dieu vivant lui-même que nous trouverons une source inépuisable pour nous conduire à l'action. Au verset 16 et 17 se présente le cas où un serviteur préférerait rester avec son maître. Et s'il arrive qu'il te dise « Je ne sortirai pas de chez toi, car il t'aime, toi et ta maison, et il se trouve bien chez toi », alors tu prendras un poinçon et tu lui en perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours. En comparant ce passage avec Exode 21, versets 1 à 6, nous remarquerons une différence provenant, comme nous pouvions nous y attendre, du caractère distinctif de chaque livre. Dans l'Exode, l'aspect typique est mis en relief. Dans le Deutéronome, c'est l'aspect moral. De là vient que, dans ce dernier livre, l'écrivain inspiré omet tout ce qui a rapport à la femme et aux enfants, comme étranger à son but, quoique cet élément soit essentiel à la beauté et à la perfection du type d'Exode 21. Dans notre chapitre, donc, nous avons l'aspect moral de cette institution. Le serviteur aimait son maître et était heureux avec lui. Il préférait un esclavage perpétuel auprès d'un maître qu'il aimait, à la liberté, loin de lui, avec un don de sa libéralité. Cela, naturellement, parlait en faveur du maître et de l'esclave. C'est toujours bon signe quand des relations semblables sont de longue durée. Ceux d'entre nous qui sont patrons ont à considérer s'ils cherchent réellement le bien, le bonheur et l'intérêt de leurs employés. Ils ont à penser à autre chose qu'à la quantité d'ouvrage qu'ils peuvent tirer d'eux. Le patron chrétien est appelé à agir d'après un principe plus élevé. Il a le privilège d'être un imitateur de son maître, Christ. S'il s'en souvient, tout sera bien réglé dans ses relations avec ses employés. Il aura soin d'étudier son divin modèle afin de reproduire son caractère dans tous les détails de la vie pratique journalière. Il en est de même de l'employé chrétien. Il doit étudier l'exemple mis devant lui par le seul parfait serviteur qui ait jamais marché sur cette terre. Il est appelé à suivre ses traces. Il est très frappant de voir que le Saint-Esprit donne plus de direction au serviteur qu'à toutes les autres relations prises ensemble. C'est ce que le lecteur peut voir d'un coup d'œil dans les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens et à Tite. Par son comportement, le serviteur chrétien peut orner l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Il peut servir le Seigneur en accomplissant ses devoirs les plus ordinaires. Au verset 18, nous avons une parole d'avertissement qui nous révèle très fidèlement, mais avec une grande délicatesse, une des choses qui se trouve au fond du pauvre cœur humain. Ce ne sera pas à tes yeux chose pénible de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui te vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. » Ces paroles sont très touchantes. Voyez comment le Dieu haut élevé condescend à plaider auprès d'un cœur d'homme, celui du maître, la cause de son serviteur et comment il établit les droits de celui-ci. Dieu n'omet rien de ce qui peut être en faveur du serviteur, rappelant au maître la valeur de ses 6 années de service et l'encourageant par la promesse d'un surcroît de bénédiction comme récompense de sa générosité. L'Éternel ne veut pas seulement que l'acte de générosité s'accomplisse, mais qu'il soit fait de manière à réjouir le cœur de l'esclave. Il ne pense pas seulement à l'action en elle-même, mais à la manière dont elle est faite. Si nous accomplissons chaque bonne action en agissant par devoir et à contre-cœur, toute la valeur de cette action est ôtée. C'est la générosité du cœur qui donne à l'acte sa valeur. Nous devrions faire le bien de manière que celui qui en est l'objet soit assuré que notre propre cœur y trouve aussi sa joie. C'est la manière d'agir de Dieu. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Luc 7, verset 42. Il fallait faire bonne chère et se réjouir. Luc 15, verset 32. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 10. Oh, puissions-nous refléter mieux cette précieuse grâce du cœur de notre Père. Des offrandes sans défaut. Tu sanctifieras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra parmi ton gros bétail ou ton menu bétail. Tu ne laboureras pas avec le premier-né de ta vache, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras, toi et ta maison, devant l'Éternel, ton Dieu, d'année en année, au lieu que l'Éternel aura choisi. Et s'il a un défaut corporel, s'il est boiteux ou aveugle, s'il a un mauvais défaut quelconque, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel, ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront également, comme de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Versets 19 à 23. On ne pouvait offrir à Dieu que ce qui était parfait. Le premier-né, mâle, sans défaut, est la figure de l'agneau de Dieu qui s'est offert sans tache à Dieu sur la croix pour nous. Fondement impérissable de notre paix et précieuse nourriture de nos âmes dans la présence de Dieu. Au lieu que Dieu avait choisi, l'assemblée d'Israël pouvait se grouper autour du centre divin, faisant la fête dans la présence de Dieu, se nourrissant de ce qui était le type de Christ.